De Washington à Miami.
De la démagogie à l'hypocrisie.
Toute l'actualité.
Ou presque.
Dans Carrément Méchant.
Ouais. We're all living in America. America. It's wonderful. We're all living in America. Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans ce 9e numéro de Carrément Méchant, l'émission qui met à sac l'actualité internationale et suisse. Avec moi, j'ai l'époustouflante Émilie.
Ouh là là, bonjour Yann.
Oui, parce que je me suis époustouflé à dire...
Oui, j'ai tout époustouflé aussi.
Exactement.
Des fois, je m'époustoufle moi-même.
Oh, fantastique. Donc, aujourd'hui, nous allons faire, on va dire, le résumé, le petit tour de l'actualité.
Voilà, on va vous mettre à jour sur ce qu'il s'est passé dans les dernières semaines.
Exactement. Et on va...
On va commencer tout de suite.
Oui.
On va commencer tout de suite avec une information absolument cruciale et... à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout.
Et à laquelle vous avez échappé.
Oui, bien sûr, je vous parle évidemment de l'annonce d'Hillary Clinton qui se présente au présidentiel de 2016 pour le Parti démocrate. Dont personne sur cette planète ne se doutait.
Non, très franchement, c'était pas du tout un truc qu'on avait déjà annoncé lors des précédents numéros.
Non. Alors, enfin, bref, à la surprise la plus totale de l'ensemble de l'humanité, Hillary Clinton va se présenter en 2016 pour la présidence des États-Unis. Eh bien, voilà, c'est tout. Non, je rigole.
Ah, c'était une sacrée brève, oui, t'es brève, là, ton
non,
info.
Non, mais du coup, alors, comme ça, c'était l'information, mais évidemment, comme nous sommes des journalistes, scrupuleux, je vais vous parler un petit peu plus de comment Madame Clinton a effectué cette annonce, et elle l'a fait, globalement, sur YouTube. Elle a lancé son clip de campagne, qui est une pièce de cinéma tout à fait poétique, tout à fait charmante, tout à fait mignonne. Sortez les mouchoirs. Elle nous montre des individus et des familles américaines qui racontent quels sont leurs futurs projets. Certains se marient, certains déménagent, certains veulent fonder une famille, etc.
Certains sont gays. Bon, ouais. Si, si.
On va y venir.
Ah bon? Car en fait, ils ne sont pas gays, c'est ça? Ce sont des acteurs. Ah!
Tu me coupes un peu, là.
Hein? Non!
Si!
Merde!
Enfin, bref, donc, vous le pensez bien, ce ne sont pas des individus quelconques. C'est, ils ont été choisis dans un florilège de symbolique extrêmement subtil, aussi subtil qu'un éléphant américain dans une écurie démocrate.
Ouais, oh, belle métaphore.
Et donc, oui, merci, j'ai beaucoup travaillé. Et donc, Hillary se profile dans ce clip comme la championne de toutes les minorités suivantes. La plupart n'étant d'ailleurs pas des minorités, mais ça fait toujours bien de se présenter comme le champion des minorités.
Oui.
Donc, je vais vous énumérer tous les groupes que l'on voit dans ce clip. Les familles, les femmes, les enfants, les jeunes, les hommes, les personnes âgées.
Les hommes, c'est une minorité ?
Justement, mais c'est toujours bien d'être le champion d'une minorité, hein ? Les hispaniques, les noirs, les afro-américains, bref,
les personnes
vous savez de qui je parle. Le contraire des blancs. Les homosexuels, les chiens, les chats et les chauves. Le tout sur le slogan « Quand les familles sont fortes, l'Amérique est forte ». L'Amérique est forte même,
Oui.
Je suis trop bilingue, excusez-moi. Et donc voilà, c'est absolument poétique, on en a tous les larmes aux yeux. Et il y a d'autres personnes qui ont les larmes aux yeux, mais pour d'autres raisons. En Russie, le clip a été censuré par l'État. Censuré, il est diffusé avec le label interdit aux moins de 18 ans, puisqu'il est accusé de promouvoir l'homosexualité, hein, c'est pour dire.
Parce qu'il faut bien dire, hein, le couple homosexuel qu'on voit dans le clip, ils sont en train de forniquer dans le trailer, ce qui a d'ailleurs surpris beaucoup de monde. Hein,
oui, alors
on ne s'y attendait pas.
Voilà, ils forniquent par le biais de leurs mains qui se tiennent.
Exact, mais c'est déjà beaucoup.
Oui, non,
c'est déjà tu te rends compte, de par exemple toute la transpiration qu'on peut s'échanger comme ça, c'est un échange de fluide.
Non, c'est dégueulasse, c'est absolument immonde, c'est repoussant, et heureusement que Vladimir Poutine est là pour nous le rappeler.
Bien sûr.
Et puis, par contre, moi, je me réjouis que les Républicains rétorquent à Hillary Clinton avec un clip qui montre tous les groupes qu'elle ne soutient pas. Il n'y en a pas beaucoup jusque-là.
Son mari.
Jusque-là, je ne peux pas penser à un autre groupe de personnes que les célibataires endurcis blancs chevelus.
Je parle bien de son mari, du coup. Hein,
Bon, alors, célibataire, ça ne va pas...
Dans l'esprit.
Oh, c'est subtil.
Ouais.
Enfin bref, donc je pense que le Parti républicain va faire campagne sur ça, sur les célibataires endurcis, blancs et chevelus, qui sont aussi des citoyens américains et ne méritent pas d'être laissés de côté par Madame
Pour le
Clinton.
coup, ça représente quand même pas mal de monde. Je pense qu'il y a moyen de gagner en 2016, hein, sans cette démographie-là, très
Oui,
franchement.
non, mais il y a de quoi faire. Alors en tout cas, on se réjouit de voir comment ça va évoluer. Et puis, pour vous parler un peu plus de cette présidentielle, Yann, ici présent, a fait
Bah oui.
quelques recherches sur un autre candidat.
Bah oui, parce que contrairement à Émilie, moi je me concerne pas simplement des gros gauchistes comme la marxiste
Oh là là.
révolutionnaire Hillary Clinton,
Oh
hein,
là là.
rappelons-le, gauche de la gauche, enfin voilà, guévariste, incroyable. Moi je me tourne vers l'Amérique des vraies valeurs, je me tourne vers Marco Rubio. Quelles
Ça
sont les idées de Marco Rubio?
sonne pas très américain, Marco
Eh
Rubio.
ben, on va y venir. Donc c'est parti. La grande course aux primaires, elle a commencé outre-Atlantique, Émilie nous l'a dit, aussi bien du donc côté démocrate que du côté républicain. Pour les démocrates, c'est pour l'instant Hillary Clinton qui est en pole position et qui ne devrait pas décrocher. La perdante de 2008 compte bien revenir aux affaires en 2016 et les sondages la confortent dans cet espoir. Côté républicain, évidemment, c'est une autre histoire. Après deux mandats de Barack Obama, il est l'heure de sonner le clairon de l'alternance et celui des prétendants à l'investiture du parti républicain avec. Eh ben, on a déjà Rand Paul, on a Ted Cruz, mais on a aussi et surtout Marco Rubio.
Oui,
Alors,
enfin surtout,
oui.
c'est un peu un outsider, comme on dit, non?
C'est un pseudo-outsider, on va voir pourquoi. Pourquoi donc s'intéresser à Marco Rubio? Pourquoi est-ce qu'il. Comment dire, il a le droit à une chronique dans Carrément Méchant? Eh
Ce
bien.
qui est un privilège que peu ont, mes chers amis.
International, rappelons que la Suisse est un
Absolument.
pays incroyablement qualitatif et qu'avoir une chronique faite par deux Suisses, forcément, c'est quelque chose
Ah non, c'est.
d'extraordinaire. C'est un privilège que peu de politiciens ont
D'ailleurs,
eu
on est en train
jusque-là.
de lui offrir une plateforme incomparable pour
Oui.
sa campagne électorale.
Il devrait nous remercier.
Voilà, on se réjouit de recevoir des t-shirts
Mais pourquoi
et
parler
des
de lui?
tasses.
C'est vrai,
Pardon.
c'est vrai. Et les stylos. Pourquoi parler de Marco Rubio? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est l'un des plus jeunes candidats à l'investiture républicaine. Il n'a que 43 ans. Ses grands-parents étaient cubains. Il est lui-même natif de Miami. Et à ce titre, il est mieux placé que certains blancs-becs pour attirer le vote de la communauté latino que le Parti républicain n'arrive pas bien à canaliser à cause des positions anti-immigration et des propos parfois racistes de certains de ses membres les plus véhéments. Tout à fait logique finalement. Alors oui, son profil n'est pas le plus repoussant, mais au juste, que propose-t-il en termes de mesures, en termes d'idées? C'est un papier de Vox.com qui développe la pensée politique de ce bon Marco. Alors tout d'abord, comme bon républicain, il est favorable à des réductions d'impôts, évidemment, aussi bien pour
Oui.
les plus riches que, innovation, pour la classe moyenne. Il vise une modification drastique du code de l'imposition, si drastique qu'il ne reconnaîtrait que deux catégories de contribuables et éliminerait la taxe levée sur les dividendes. C'est quand même osé.
What? Ça veut dire quoi,
Sur les
techniquement?
dividendes, c'est sur les actions.
Oui. Vous me remercierez, chers auditeurs.
Voilà, exactement, c'est les actions, c'est quand on va boursicoter, c'est quand on va
Ouais.
aller prendre des actions de Thomson et qu'on va perdre en bourse comme un con parce que Thomson ça vaut plus grand-chose.
Tu
Voilà.
parles d'expérience?
Non, heureusement, je ne
Oh.
boursicote pas, je suis moi-même un
Un
asset.
anti-boursicoteur, comme on
Ex
dit.
anti, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas osé y mettre le moindre phalange. Toujours est-il donc, il est aussi favorable à une politique d'immigration plus souple que le reste de ses amis républicains et que celle qui est actuellement en place. Il dit aujourd'hui que la priorité est d'abord à une protection de la frontière, malgré tout. Donc là, il y a un petit retour en arrière, hein. Puis ensuite à une éventuelle réforme de l'ouverture américaine, un moyen de rassurer le flanc ultra-conservateur de son parti, qui pourra toujours ralentir la dite réforme via le Parlement une fois que le bon Marco sera élu président. Finalement, chose permet d'arranger
Scénario
un peu tout le monde. C'est
hypothétique.
ça, il peut se faire élire avec les voix latino et ensuite faire en sorte que le Parlement vote contre une éventuelle réforme qu'il voudrait lui. Donc finalement,
Non, c'est assez machiavélique,
tout le
n'empêche.
monde y gagne, hein, j'ai
Oui,
envie de
oui.
te
Non,
dire.
non, mais j'adore.
Alors, à l'image de Hillary Clinton, Marco Rubio est assez favorable aux interventions militaires, il aime bien la guerre. En 2011, il voulait que le pays investisse la Libye, puis il a voulu qu'on arme les opposants à Assad en Syrie. En 2014, il s'est déclaré pour des frappes violentes contre ISIS, arguant que les attaques aériennes seules ne suffisent pas. Il fallait mettre des, comme on dit aux États-Unis, boots on the ground, donc des soldats sur le sol.
Finalement, il aurait pu être texan, hein?
Il a en tout cas la verve de ce côté-là.
Voilà.
On remarquera aussi qu'il ne croit tout simplement pas que le réchauffement climatique est causé par l'homme et que la seule chose qu'une action politique contre le dit réchauffement arrivera à accomplir est, je cite, « la destruction de notre économie ». Toutefois, il se cache derrière le fait avéré qu'il n'est pas un scientifique et que la question du réchauffement climatique fait, selon lui, l'objet d'un vaste débat dans cette communauté-là. Très bien. Rubio est un pro-life. Il a déclaré que la vie commence à la conception. Une idée qui, selon lui, est plus qu'un consensus, mais une véritable unanimité.
Si jamais les pro-life, ce sont ces gens qui, aux États-Unis et au Canada, vous distribuent des flyers sur lesquels il y a des photos de fœtus ensanglantés.
Oui.
Et c'est absolument dégoûtant.
Politiquement parlant, ils sont pas loin, tu sais, des militants anti, alors non pas anti-mariage gay, mais directement anti-gay qui se trimballent avec des panneaux
des
God hates fag,
qui
est en gros. Je traduis de manière extrêmement littérale, mais et c'est volontaire, j'utilise ce terme-là, mais en gros, c'est des panneaux qui disent Dieu déteste les PD, donc volontairement un vocabulaire offensif, et volontairement voilà.
Qui sont répandus de façon assez surprenante et assez visuelle, enfin bref, tout ça pour dire que c'est pas un obscur groupe comme on a en Europe qui de temps en temps organise une manifestation tous les 6 mois. C'est vraiment des gens qui sont dans les supermarchés, dans la rue, et qui vous balancent des flyers à la gueule en disant que l'avortement est le plus grand crime que vous pouvez faire. Donc ça me réjouit beaucoup de savoir que ce cher Marco Rubio est un pro-life.
Enfin,
je le félicite.
Toujours dans son ethos du cul entre deux chaises politiques, Marco Rubio s'est déclaré contre le mariage pour les couples de même sexe, se retranche derrière le bon vouloir des États qui, selon lui, sont mieux qualifiés à décider pour eux-mêmes plutôt que de se plier au jugement de la Cour suprême. Voilà qui est très très constitutionnel, monsieur Rubio.
Oui, il a l'air de faire du contorsionnisme politique avec un brio qui est facile à garder dans la course à la présidentielle, mais qui, une fois qu'il sera assis sur le trône de fer, sera probablement un peu plus compliqué à garder.
En fin de compte, oui, Marco Rubio est un candidat intéressant pour les Républicains, mais non, il n'est pas l'icône d'un changement révolutionnaire au sein de son parti, malgré ses origines cubaines.
Absolument.
Même si, à ce compte-là, c'est toujours mieux que ce soit lui que Jeb Bush.
Oui, enfin...
En termes de dynastie
politique. Ouais, la peste et le choléra, comme on dit.
Exactement. Allez, on reste entre Cuba et les States avec toi, Émilie.
Absolument. Donc, on vous parlait de Marco Rubio qui vient de Cuba.
Oui.
Vous avez certainement beaucoup entendu parler de Cuba ces derniers temps, puisque le président Obama, dans sa dernière tentative de rester, que son nom soit gravé dans l'histoire comme étant le président le plus swag que le monde ait jamais connu, a serré pour la première fois la main de son homologue cubain Raúl Castro, le frère de Fidel. C'est donc la première poignée de main entre les deux chefs d'État depuis presque un demi-siècle.
Et elle était probablement moite.
Oui, alors, on n'a pas tous les détails, mais probablement. Donc, cette poignée de main historique a eu lieu au sommet des Amériques au Panama, qui était la 6e rencontre de ce genre organisée, qui réunit donc tous les États américains, ce qui comprend l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, au cas où vous l'auriez oublié, et qui était la première fois que Cuba participait à cette rencontre. Tous les participants sont autorisés à avoir un temps de parole de 8 minutes. Raúl Castro a donc exigé de pouvoir parler 6 fois plus que les autres.
Mais on rappe.
Non, juste...
My name is Raoul and I'm here to say... Non, bref.
Au nom de l'égalité, puisqu'ils n'ont pas été là pendant les 6 dernières rencontres.
Oh, mais c'est bien parce que ça rajoute totalement, tu sais, le côté très... justement très castriste de faire des discours de 3 plombes de long.
Oui, alors sûrement, ça a dû être un peu compliqué pour lui de faire ça. Toujours est-il qu'il est arrivé, il a tapé sur la table, il a dit « C'est injuste, je vais vous parler plus ». Mais donc, pourquoi ? Que s'est-il passé ? Déjà, pourquoi les États-Unis et Cuba étaient à couteau tiré depuis quelques années ? Et pourquoi se sont-ils réconciliés et ils sont maintenant, paraîtrait-il, amis sur Facebook ? Eh bien, je vais vous donner une réponse tout à fait surprenante, c'est en tout cas en partie à cause du pape.
je m'attendais pas à celle-là, vas-y.
Non, alors sans rire, le pape François a joué un rôle instrumental dans la réconciliation des deux pays. Pourquoi, on ne sait pas, mais on se doute en fait que le pape François aurait voulu être secrétaire général de l'ONU quand il était petit, mais il a été recalé et du coup il s'est dit « merde, je fais pape ». En attendant, il aime toujours bien faire de la diplomatie et il a organisé en fait la médiation entre Cuba et les États-Unis, ce qui a partiellement amené à la poignée de main d'aujourd'hui. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les relations entre Cuba et les États-Unis sont plutôt mauvaises depuis la guerre froide. Oui, vous pensiez que la guerre froide était finie ? Eh bien non. En tout cas, cette poignée de main était une étape de plus vers la énième fin de la guerre froide. Mmh. Et donc, les États-Unis et Cuba avaient imposé un embargo à Cuba qui était tellement vaste que les citoyens américains sont complètement interdits de voyage à Cuba. Mmh. Donc, cette poignée de main n'indique pas la fin de l'embargo, mais uniquement le retrait de Cuba de la liste américaine des États qui soutiennent le terrorisme.
En gros, le début des discussions.
Voilà, c'est le début de quelque chose. Donc, sur cette liste, vous vous diriez, il doit y avoir une petite dizaine d'États qui soutiennent le terrorisme, quand même quelques-uns. Eh bien non, il y en avait quatre. Cuba, la Syrie, l'Iran et le Soudan. Il y en a donc maintenant plus que trois. Donc,
je suis sûr que l'Iran va bientôt sauter du truc. Mais...
l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes, ou voir la Russie, ou même la Chine pendant qu'on y est, ne se sont miraculeusement pas retrouvés sur cette liste. On ne va pas essayer de savoir pourquoi. Toujours est-il que c'est une liste qui est aussi politique que trop courte. Donc, maintenant, après cette poignée de main, l'embargo a été un petit peu allégé. Les citoyens américains peuvent voyager à Cuba, mais uniquement pour 12 raisons différentes, laquelle n'inclut pas le tourisme. Ce qui est d'ailleurs le plus grand bonheur des Canadiens, puisque Cuba était la destination préférée des Canadiens, pour la simple et bonne raison qu'ils n'y trouvaient aucun Américain. Ce qui est rigolo.
Est-ce qu'on a des destinations où il n'y a aucun Allemand ?
Je vais me renseigner et je vous tiendrai informé pour le prochain numéro.
Ça, je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde.
C'est vrai. Et donc il y a ces 12 différentes raisons, le journalisme pour visiter la famille ou bien pour faire du commerce. Et quelques entreprises américaines ont décidé d'investir à Cuba, mais beaucoup moins que ce à quoi on serait attendu, puisque les entreprises sont toujours relativement refroidies par le système légal cubain qui n'est pas exactement, disons, profitable pour elles. Par contre, une entreprise que vous connaissez tous a voulu se la jouer cool et a sauté sur l'occasion. Mmh. Je vous parle de Netflix.
Oh.
Netflix a décidé de proposer ses services aux Cubains pour la modique somme de 7,99€ par mois et est ainsi devenue la risée du monde économique. Mais pourquoi donc ? À Cuba, le salaire moyen est de 17$ par mois. Il y a uniquement 5300 accès à DSL pour une population de 11,12 millions d'habitants.
Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire, en fait, leur accès ne doit pas être top.
Seulement 30% de la population, en gros, a accès à un ordinateur. Les Cubains n'ont que très peu de moyens internationaux, ce ferreur uniquement Mastercard a également proposé ses services à Cuba. Mais en plus, au-delà de toutes ces excellentes raisons pour lesquelles c'est une bonne idée pour Netflix de proposer son service pour 8$ par mois, le gouvernement cubain impose une taxe de 10% sur tous les paiements en dollars. Donc Netflix nous donne une bonne leçon de marketing, comment investir, comment être rentable, mais on va quand même admirer le geste parce que c'est quand même relativement sympa pour les 3 personnes qui vont utiliser Netflix à Cuba.
Pour la famille Castro, quoi.
Absolument. Donc, il y a d'autres raisons pour lesquelles les États-Unis et Cuba ont décidé de réchauffer leurs relations sont parce que le monde change. Donc, comme je vous le disais, la guerre froide est finie. Ce sur quoi M. John Kerry a dit quelque chose d'extrêmement intelligent. Il a dit, je cite, « Notre hémisphère et le monde sont très différents aujourd'hui de ceux qu'il y a 33 ans. » De ceux qu'ils étaient il y a 33 ans. Ce qui est vrai, ce qui nous prouve la grande sagesse de M. Kerry.
Oui, ce
laquelle n'est plus approuvée.
Ben, comment dire, la vitesse à laquelle cette fameuse liste des états terroristes a changé aussi en 33 ans. C'est,
Oui, alors, enfin, tout à coup, les choses sont très différentes quand ça nous arrange. Et puis, quand ça ne nous arrange pas, on va fermer les yeux. Et au-delà de ça, on peut également inscrire ce rapprochement entre les États-Unis et Cuba dans la stratégie de politique étrangère d'Obama, qu'il a annoncé il y a 2 ans, ce ferreur, comme étant le « shift to Asia », donc le pivot vers l'Asie, c'est-à-dire... je vais vous l'expliquer plus simplement, ça s'appelle « get the fuck out of the Middle East ». Et du coup, ce qui veut dire « n'importe où, sauf au Moyen-Orient », donc on peut également inscrire Cuba là-dedans. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, vous avez compris pourquoi M. Obama et M. Castro se sont serré la poigne il y a quelques jours.
Fantastique.
À ton tour, Yann.
Tout
tu
à
vas
fait.
Nous emmener quelque part d'autre.
Exactement. Cette fois-ci,
oh,
j'ai fait péter.
Tu vas nous emmener chez mon petit président favori.
C'est ça, j'ai fait péter la tirelire. Cette fois-ci, je ne t'emmène pas en France, je t'emmène jusqu'en
Russie.
Tu m'as
toujours pas emmené en France, Yann.
Tu n'es toujours pas revenu d'Autriche. Donc je t'emmène en... chez Vladimir Poutine, en Russie, au Kremlin. Puisque, voilà, on va parler un peu de gros sous maintenant. Je connais Vladimir, tu connais Vladimir, nous connaissons tous Vladimir Poutine, au moins de nom. On sait ce qu'il a fait, il dirige la Russie, et on se doute de comment il le fait, en forçant la main de l'opinion publique, en opprimant l'opposition, et en organisant des élections pseudo-démocratiques, légitimant ses manœuvres politiques.
Et ça, en allant chasser l'ours avec un fusil à pompe.
Aussi. Tout ça, on en cause depuis un moment, finalement. Ce dont on parle moins souvent, c'est de la richesse du bonhomme. Car au fond, deviner le jeu politique d'un aussi grand pays, ça doit rapporter pas mal, non ?
Moi, je croyais que c'était quelqu'un de humble et de modeste.
Eh ben, figure-toi qu'apparemment, c'est le cas. Dans une liste publiée conjointement par le Kremlin et par le reste du gouvernement russe, on apprend en fait que Vladimir Poutine est payé moins cher qu'une bonne partie de ses propres ministres, premier ministre compris, le bon Dimitri Medvedev. Bon, pour Medvedev, ça se comprend. La prime à la fidélité, il ne l'a pas volée. Chauffer le siège présidentiel de son pote Poutine alors que ce dernier assumait la tâche de premier ministre pour ensuite revenir à la position initiale, ça, même Sarkozy et Fillon n'ont pas été capables. Vladimir Poutine aurait perçu l'équivalent de 12 000 euros par mois en 2014, soit le double qu'en 2013. Notons deux choses. Tout d'abord, ça semble relativement peu. Ensuite, chapeau à lui pour avoir négocié une augmentation de 100% auprès de...
lui-même.
Du directeur des ressources humaines du Kremlin.
Ah non, mais moi je suis sûr qu'une idée. Tout est organisé de façon extrêmement transparente, et puis c'est pas à Vladimir Poutine de décider de son propre salaire, ce serait complètement anticonstitutionnel.
Exactement.
Ce serait un scandale.
On apprend aussi que Valdoche dispose de 3 voitures et d'une remorque pliable, de 1500 mètres carrés de terre et d'un appartement de 77 mètres carrés. C'est cool. C'est cool, sauf que ses opposants, parmi lesquels le gênant Boris Nemtsov, le même qui a été mystérieusement assassiné à deux pas du Kremlin, ses opposants donc peignent un portrait tout à fait différent des ressources du patron Poutine. Certes, ceux-ci s'attaquent plus sur le flanc du patrimoine que sur celui du revenu, mais très
est-ce qu'il a vraiment une remorque pliable ? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir.
C'est ce qu'il a déclaré, en tout cas. Mais très franchement, quand on dispose d'une somme folle en banque, au bout d'un moment, on conviendra qu'on a potentiellement rien à carrer de son salaire. Surtout quand il est question de diriger une énorme nation.
Absolument.
Il aurait en effet dans ses bras...
il doit avoir des petites actions par-ci, par-là, dans des petites compagnies.
Attends. Il aurait dans ses bas de laine une vingtaine de grandes résidences, 4 yachts, 43 avions, toucherait une quantité confortable de dividendes.
C'est plus que le nombre d'avions que nous avons dans l'armée suisse, mesdames et messieurs.
Exactement, ou dans mon garage. Il toucherait une quantité confortable de dividendes de la tentaculaire compagnie Gazprom, spécialisée dans les énergies fossiles. Bref, il serait pété d'oseille, pour faire simple. Le porte-parole de Vladimir Poutine Ier, Dmitri Peskov, excusez-moi, a reconnu l'existence de toutes ces richesses dont je viens de parler, donc les 43 avions, les vingtaines de grandes résidences, etc., à l'exception des actions chez Gazprom, mais tiens à ce que ces richesses-là...
C'est de loin ce qui est le plus connu, non ?
Tiens à ce que ces fortunes-là soient identifiées comme propriété de l'État russe et non pas comme propriété du chef de l'État en question. Ce qui, avouons-le, est quand même un peu faux-cul, vu comme ce dernier se cramponne à la fonction. Voilà le petit bilan sur les richesses de Vladimir Poutine. Je crois que maintenant,
donc,
nous allons...
Comme on vous le disait, c'était un homme modeste.
Oui.
Un homme, finalement, presque normal.
Oui, voilà,
comme
François Hollande.
La transition. Nous avons eu l'honneur, nous, en Suisse... de recevoir...
Prix 2015 de l'animatrice radio, bravo, je l'ai vraiment pas vu venir en plus.
Merci beaucoup. Nous avons eu donc l'honneur en Suisse de recevoir le président normal, le président français, monsieur François Hollande, a eu l'honneur de nous rendre visite pour la
première
fois.
T'inverses le truc là.
Quoi ?
C'est genre, il y a un instant on a eu l'honneur, non, c'est lui qui a eu l'honneur. Mais,
ah oui, non, mais l'honneur était partagé. Enfin,
oh.
Tout le monde était très honoré, ça c'est vrai.
C'est comme dans cette émission.
Tout le monde l'a dit. Non, mais alors tout le monde est très honoré, tout le monde. Bref.
Oui.
Le plaisir est le mien, etc.
Même les saints étaient honorés, non, pardon.
Donc, non seulement nous avons eu la chance d'avoir eu monsieur Kerry et son homologue iranien, monsieur Javad Zarif, la semaine passée.
Oui.
On a On ne sait pas vraiment si on a gagné ou perdu en charisme avec Monsieur Hollande, mais toujours est-il que l'enthousiasme soulevé par sa visite a reçu peu d'égal dans les médias suisses qui apparemment préfèrent les joues flasques de Monsieur Hollande au visage botoxé de John Kerry.
En même temps, le joufflu de l'Élysée, on ne l'avait pas vu en visite. Visite officielle en Suisse jusque-là, ça fait quand même depuis 2012 qu'il est président.
On n'avait pas vu, et puis surtout on n'avait pas vu de président français depuis 1998, si je ne me trompe.
Oh la vache, c'était Chirac à l'époque. Oh là.
Et à l'époque c'était effectivement Chirac.
On se tape que les Corréziens, dis-moi.
Finalement, Monsieur François Hollande est plus venu en Suisse pour réparer cette bourde diplomatique que parce qu'il avait vraiment quelque chose à carrer de la Suisse. Mais la Suisse était, comme je vous le dis, était extrêmement honorée et on a pu suivre Hollande dans les médias littéralement minute par minute et vous jure, c'était un ennui.
Vous pouvez encore aller sur Twitter maintenant et faire hashtag visite Hollande, c'était passionnant.
Je comprends pas comment les journalistes ont pu survivre à ces deux jours, on a pu savoir où il allait, ce qu'il mangeait, qui il rencontrait, etc. Combien de selfies le président a-t-il pris ? Le président Hollande a fait une blague. Breaking news. Des gens ont ri à la blague de François Hollande. Enfin, c'était... Je plains tous les journalistes qui ont été assignés à cette visite de deux jours, mais dont on aurait dit qu'elle avait duré deux mois. Tellement la couverture médiatique était large. Dans un élan de chauvinisme digne du pays de leur hôte, les médias suisses se sont par ailleurs indignés que cette visite ne soit que peu couverte par les médias français, qui pour une fois ont été relativement objectifs et l'ont mentionné, voire ont publié un article ou deux sur les relations France-Suisse, mais se sont calmés. Donc du coup les médias suisses ont pu sortir encore plus d'articles qui parlaient du manque d'articles dans les médias français.
Oui.
Puisque finalement, ils ne comprennent pas à quel point c'est important, blablabla.
Bah pour te dire, ce matin, en me levant, enfin ce matin, à 11h, en me levant, aujourd'hui, j'ai vu sur ITD, il y avait un espèce de petit panel de journalistes étrangers, donc ITD, c'est une chaîne française d'information en continu, et en gros, ils faisaient « Hey, on reçoit machin de la Berner Zeitung, donc d'un journal bernois, en Suisse, et pour parler de... » Je me suis dit, ils vont parler de la visite Hollande. « Pour parler du modèle économique suisse, qui est un exemple, blablabla. » Donc en fait, vraiment rien à carrer.
Non, vraiment rien à carrer. Par contre, il y a eu un événement que les médias français ont apprécié et qu'ils se sont empressés de publier et de partager. Donc, alors que François Hollande et la présidente suisse Simonetta Sommaruga inspectaient les troupes, un soldat suisse s'est évanoui, devenant officiellement la première personne à s'être jamais évanouie devant François Hollande.
Ah non, il y a Trier Valeur.
Non, mais elle, c'était du dégoût, justement, je veux dire. Les réactions...
Ah, par plaisir, tu veux dire.
Donc, d'habitude, les gens... Tu m'as fait perdre le fil de ma phrase, Yann.
C'est le but.
donc, François Hollande a plutôt l'habitude de provoquer des réactions allant du dégoût à l'indifférence. On raconte même qu'il s'est dit flatté de cet évanouissement.
Ouais.
Et, true story, la communication de l'Élysée s'est même fendue d'un laconique tweet souhaitant un prompt rétablissement aux soldats inconnus. Selon lui, c'était le soleil.
Aux soldats inconnus.
Voilà, et du coup on envisage de lui construire un monument à Berne.
Écroulé.
Non, pas le monument aux soldats inconnus.
Oui, je sais, mais justement je...
J'ai fait une blague.
Je continuais sur ta blague en disant qu'on allait mettre une statue d'un mec écroulé de manière complètement pathétique.
Voilà, et puis comme ça nous allons pouvoir enfin
non,
pallier à notre honte européenne de ne pas avoir de ces monuments toujours un peu étranges.
C'est vrai. Pour le coup, juste, je sais pas si tu comptes boucler le sujet, mais par rapport à cette visite-là et par rapport même à cette journée-là, je sais plus où ils étaient, je crois qu'ils étaient à Berne au moment où il y avait cette espèce de petite revue militaire avec les deux, avec les orchestres qui jouaient les deux hymnes nationaux. Avant même qu'ils arrivent, parce qu'évidemment, dans la grande tradition des chefs d'État, tout le monde est à la bourre.
Ouais, l'orchestre, oui, j'allais venir.
Ah bah vas-y alors.
Le soldat, bref, c'était l'accueil de François Hollande, il y avait ses militaires, il y avait une fanfare, et la fanfare a joué le générique de l'agence Tourisque.
Ce qui correspond beaucoup à l'armée suisse.
Voilà, ce qui correspond beaucoup à l'armée suisse, ce qui correspond à une forme de diplomatie passive-agressive.
C'est ça.
Assez intéressante, à laquelle François Hollande a répondu, enfin, je l'interprète comme étant sa réponse.
Il a déchiré sa chemise et il a gueulé « C'est moi, Mr. T !»
Non. Donc, lors d'un dîner officiel, M. François Hollande a fait un petit discours, et dans son discours, il a comparé les ambitions de la Suisse et de la France en disant « Nos deux pays partagent la prétention de donner des leçons au monde. Nous, en allant loin, vous, en restant chez vous. » Ce qui, je pense qu'il le pensait comme un compliment. Ce qui est quand même pas très sympa.
Mais déjà, tu commences par donneur de leçons.
Voilà, et ce qui était surtout une vile attaque sur le fait que non, nous n'avons pas eu d'empire colonial. Désolé. Oh. Et oui, nous savons que la France a été, il y a longtemps, un grand empire. Enfin, bref.
Enfin, en même temps, ça nous a pas empêché d'être racistes, hein, mais...
Non, mais ça, tu sais, y a pas besoin d'avoir des colonies pour être raciste, c'est très facile. Hein.
Et on a tous les samedis, je suis raciste, c'est pour ça qu'on enregistre l'émission de dimanche.
Absolument.
C'est mon quota, un jour par semaine.
On espère que François Hollande était content de visiter la Suisse. On a appris d'ailleurs dans une de ces breaking news incroyables qu'il passait ses vacances d'enfance à Ouchy, à Lausanne, qui est ma ville d'origine. J'en suis très flattée. Hein. Et donc, comme je vous le disais au début, la dernière fois que nous avions eu un président français était en 88. Oui. Pardon. Avant cela, c'était
98, parce que pas 88.
Non.
Hein,
oui, non, mais tu sais, moi, les pays étrangers, tout ça, la culture étrangère. Ouais. Enfin bref, et avant ça, c'était en 1983, c'est ça ?
Oui, en 83, tout à fait.
Nous avions eu Mitterrand, et avant 1983, c'était en 1910. Donc, les Suisses... Finalement, nous taquinons beaucoup la France, mais la France, surtout, n'en a un peu rien à foutre.
Exactement. Je cherche un peu qui est le président français en 1910.
C'était Arnaud de Falière ou un truc du genre.
Oh, bah il y a un bon nom de bourgeois, lui.
Oui, non, c'était il y a longtemps.
Ah oui, tu as effectivement. Et, il y avait le gouvernement Clémenceau juste avant.
C'était
le gouvernement Aristide Briand, c'est fantastique, il a un nom classe celui-là.
Bref. Fantastique. Alors voilà pour François Hollande.
Eh bien écoute, je vais t'apprendre quelque chose, Émilie, et aussi toi et auditeur, parce que j'aime bien te tutoyer, n'est-ce pas, cher auditeur. Non pas parce que tu es seul, mais parce que nous sommes proches.
Peut-être.
Non.
C'est l'unique auditeur qui est la maman de Gane.
3 millions d'auditeurs. Ah, ça veut dire que ta maman n'écoute pas.
Ah non.
C'est triste.
Enfin, je lui ai envoyé le lire une fois, mais je crois qu'elle n'a pas écouté. Petite larme. Bref, trêve de sentimentalisme. Oui. Gane, tu vas encore nous apprendre quelque chose.
Exactement.
Sur notre merveilleux pays.
Exactement, puisque dimanche dernier, c'est-à-dire aujourd'hui pour nous, mais vu qu'on diffuse le podcast mercredi, voilà. Dimanche dernier, dimanche 19 avril, c'était le premier tour d'élection municipale à Genève. Il a donc fallu voter pour ces élections municipales. Et comme je suis résident de Genève, non seulement j'ai reçu le matériel de vote, mais en plus...
Et monsieur à l'arrogance qui va avec.
J'ai reçu la propagande qui va avec. Différents partis m'ont contacté pour me convaincre des bienfaits qui m'arriveraient à moi ainsi que ma future progéniture dans 30 ou 40 ans. parce que je ne compte pas d'avoir d'enfants avant 50 ans, attention. Donc oui, si je votais pour eux. Et du coup...
J'ai un peu de peine à... Enfin...
Oui. À m'imaginer avec des enfants, moi aussi.
Non, tu nous parleras peut-être une autre fois de tes enfants, mais là...
On fera un numéro spécial.
On fera un numéro spécial sur la vie privée de Yann Rieder.
Exactement.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur lui, sans jamais oser le demander.
Exactement. Et on devra payer 3 euros à Woody Allen. Donc, si vous êtes fidèle à Carrément Méchant, vous habitez en Suisse, vous savez probablement ce que veulent dire les trois petites lettres suivantes. PDC. Rappelons toutefois au dos du fond que le PDC n'est autre que le Parti démocrate chrétien, un des plus vieux partis de Suisse, puisque créé en 1848 lors du pacte fédéral sous le nom de Parti...
Époque.
Oui, la belle époque. sous le nom de Parti catholique conservateur. Aujourd'hui, le PDC est pour les gens de droite un parti de centre-gauche, tandis qu'il est de centre-droit pour les gens de gauche. Faut suivre.
Oui, tu pourrais nous faire un dessin, s'il te plaît.
Ce qui a attiré... il est dans le camp d'en face. Peu importe où tu te trouves. Ce qui a attiré mon attention sur le PDC, figurez-vous que c'est une petite lettre que j'ai reçue donc à l'occasion des élections au conseil municipal et au conseil administratif tombées le même jour dans mon beau patelin. Dans ce courrier de propagande que j'ai reçu en début de mois, donc, au-delà du rappel du slogan du parti, au centre l'humain, et de la coalition que le PDC forme avec la droite plus classique, le PLR, j'y ai retrouvé une étrange profession de foi démocratique, suivie d'une encore plus étrange marche à suivre pour aller voter. Au recto de la lettre, donc, on me demande « Avez-vous déjà voté ?» Si oui, nous vous remercions d'avoir accompli votre devoir civique et d'avoir ainsi contribué à la lutte contre l'abstentionnisme. Votre vote est en effet un instrument de construction massive et il est essentiel de s'en servir. Ok, donc c'est plein de bons sentiments, c'est mal écrit. très bizarrement formulé, mais pourquoi pas. Au verso, par contre, tout part en vrille. Voilà leur tuto de vote, il est rock'n'roll. Alors tout d'abord, ça commence comme ça. Hein. Vote par correspondance, mode d'emploi. Vous avez reçu par la poste une enveloppe de vote grise. Ouvrez-la sans déchirer le rabat, car l'enveloppe est utilisée pour le retour. Oui, parce qu'en Suisse, on vote par correspondance.
On va pas essayer de leur expliquer comment fonctionne ce système d'enveloppe.
Parce attends.
C'est une poésie en soi.
2. Choisissez une liste de partis pour les conseillers municipaux, entre parenthèses, la liste 3 PDC, et une liste pour le conseil administratif, entre parenthèses, la liste 1 PDC PLR, la bonne entente. 3. Complétez votre carte de vote, date de naissance et signature. 4. Insérez la liste 3 dans l'enveloppe bleue et la liste 1 dans l'enveloppe jaune, puis dans la grande enveloppe grise avec votre carte, en prenant soin de mettre l'adresse de destination contre la fenêtre de l'enveloppe. 5. Et c'est très passif-agressif. À la poste, 3 petits points. Félicitations car vous avez accompli votre devoir civique. Voter est simple et ne prend que quelques minutes.
Hashtag propagande.
C'est une belle façon de manipuler les vieux et tous ceux qui s'en foutent un petit peu. Malin, bravo.
Voilà. Oui, alors malin, c'est d'une subtilité toute helvétique à mon avis.
Non, bien sûr, mais c'est quand même assez amusant de voir le côté un petit peu « Tu veux savoir comment voter ? Vote pour nous !» On va t'expliquer comment voter, vote pour nous. C'est
oui,
discret et subtil.
Malheureusement pour eux, ils sont tombés sur le, sur le rusé Yann Rider.
Le redresseur de tort.
Voilà, qui n'a pas vu, qui a vu clair dans leur jeu et qui dénonce leur stratagème machiavélique devant le monde entier dans cette émission. C'est prenez ça dans vos gueules.
Exactement. C'est pour et ça que j'ai voté Charlie Chaplin. Et donc
donc j'allais dire, en parlant de prendre des choses dans sa gueule... Pour une transition un petit peu moins cool que la dernière fois, je regrette, personne n'est parfait.
Oui.
Mais j'avais envie de terminer cette émission en vous, vous parlant brièvement d'un truc qui s'est passé en Suisse, encore une fois.
Non.
Et donc, de quelqu'un qui à qui il est arrivé quelque chose de plutôt embarrassant, à savoir une spécialiste suisse de cybersécurité nommée Solange Gernauti, qui est docteur de l'Université Paris 6, membre de l'Académie des sciences. Donc Suisse, l'Académie Suisse des Sciences Techniques, directeur du Swiss Cyber Security Advisory Council et professeur à l'Université de Lausanne. Donc cette dame est une tête en matière de cybersécurité. Son site internet s'est fait hacker par le groupe État islamique. Pardon, petit lapsus.
Ce qui est gênant vu que c'est, on a vu avec le hack de TV5, la source numéro 1 maintenant de danger en cybersécurité.
Voilà, donc j'avais envie de partager avec vous mon incompréhension totale et surtout de savoir qu'est-ce qui est le plus inquiétant. Est-ce que c'est le fait qu'une spécialiste de cybersécurité se soit fait bêtement pirater? Ou alors, est-ce qu'il faut avoir peur du fait que le groupe État islamique, qui est constitué quand même de passablement de gens, on ne veut pas dire bêtes, mais qui n'ont pas nécessairement une vision du monde hyper subtile, que ces gens arrivent à hacker des spécialistes internationaux? Ou alors, troisième option, est-ce que le programme suisse de cybersécurité est simplement très mauvais? Je ne sais pas.
Écoute, il faudra demander à la task force. Hein.
Oui, c'est ça, vous vous rappelez de la task force, j'espère. C'était la réponse de la Suisse pour augmenter ses efforts contre le terrorisme. Et
c'est-à-dire 20 mecs dans un bureau. Hein.
Voilà, nous voulions créer une task force, et qui s'appelle officiellement une task force. Personne n'a jamais compris ce que c'était plus concrètement. Dans tous les cas, je suis un peu confuse, et ce qui est rigolo aussi, c'est que cette histoire n'a pas du tout été couverte. Alors autant quand un groupe de télé se fait pirater... Mon Dieu, c'est un scandale, etc. Mais quand une spécialiste de cybersécurité se fait pirater, les gens se disent juste ok.
Ouais, mais en même temps, elle était pas connue, donc.
Non, elle était pas connue, mais c'est son. Excusez-moi, c'est son métier. Enfin, c'est beaucoup plus inquiétant que quelqu'un, qu'un professionnel comme elle, se fasse pirater qu'une chaîne de télé.
Ça donne pas une bonne image en tout cas. Après, à savoir si c'est elle qui a fait son site ou pas, c'est une chose. Par contre, si c'est elle qui a fait son site et si c'est elle qui a genre mis les mesures de sécurité autour, je pense que tous ces étudiants pourront reprendre le vieux dicton écolier et dire la maîtresse au feu, les bouquins au milieu ou le pare-feu
oui,
au milieu.
Oui, c'est ça. Mais... Alors, dans tous les cas, elle ne l'a pas fait sur WordPress, ça c'est certain.
Il y a des manières de sécuriser WordPress, je ne comprends pas. C'est ce qu'on fait chez nous, ça marche très bien. Ce n'est pas un défi pour les gens qui nous écoutent d'ailleurs. ne nous attaquez pas.
Le groupe État islamique se diversifie encore une fois. D'ailleurs, ça fait bien longtemps qu'ils n'ont plus décapité 2 ou 3 personnes. Ou alors, peut-être que si, mais finalement, tout le monde s'en fout parce que c'était des chrétiens. Enfin, des chrétiens, des chrétiens égyptiens ou n'importe quoi. Vous savez, des mecs un peu bruns et qui ne sont pas journalistes et pas journalistes américains. C'était le petit coup de gueule de la fin de l'émission.
Je viens de penser un truc et je pense qu'on finira l'émission sur cette pensée-là, mais à force de t'entendre parler du groupe État islamique, je me suis
Est-ce que tu trouves que j'en fais trop ?
Non, si tu décales un peu les syllabes, on pourrait peut-être lancer un nouveau groupe qui s'appellerait PETA islamique. Et en fait, ce serait un groupe qui à la fois voudrait imposer la charia dans le monde entier et en même temps un meilleur traitement des animaux.
Ah oui, je suis pour.
Est-ce qu'on confond
Est-ce
qu'aujourd'hui on se dirait pas, allez, contre État islamique, on va créer PETA islamique ?
Absolument, et ce sera des manifestations de chiens et de chats.
Voilà.
Qui feront quoi ? Je sais pas, qui porteront un voile.
Et la preuve que les animaux peuvent s'entendre entre eux, c'est que les chiens eux-mêmes militeront pour la charia. au secours, je fais des très mauvais jeux de mots.
Très bien, c'est la fin de cette émission, mes chers auditeurs. On se réjouit de vous retrouver dans 3 semaines.
Exact.
À l'antenne de Carrément Méchant. Et en attendant, vous pouvez rejoindre le groupe PETA islamique sur Twitter ou.
Non.
Ou dans les commentaires de notre page sur Radio Kawa.
Exactement, radiokawa.com pour télécharger, podcaster, écouter cette émission. Si vous l'appréciez, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur iTunes, ça nous fera progresser.
Et plaisir.
Exactement, et on pourrait même avoir une mise en avant grâce à ça, donc n'hésitez pas à vous lâcher là-bas. On peut suivre Emily @eroulet sur Twitter.
Oui, ainsi que Yann @inks@sht.
Exactement.
C'est vraiment pas un nom facile.
Probablement un tweet par mois, vous pouvez aussi suivre @méchantrk, c'est le compte de l'émission.
Mais c'est un tweet de qualité.
Exactement, qui est aussi de toute façon le compte de l'émission à retrouver sur la page de carrément méchantradiokawa.com/des trucs. voilà, donc on se retrouve dans 3 semaines. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très vite, ciao.
Bisous, bisous.
Je rentre dans mon Québec de verglas. Mon Amérique latine au Canada. Mais j'ai compris maintenant qu'à Cuba, j'ai un grand frère que je ne connaissais pas. Dans l'autobus en forme de cigare, qui fumait en roulant vers la Havane. J'ai vu souvent sur des panneaux bizarres la mitraillette au-dessus des cabanes. Mon ami fidèle, pour amener le peuple au ciel, sur les ondes d'une radio rebelle, il faut une samba éternelle. La gauche et la droite, Golda Meir embrasse Arafat. Dansons, dansons dans nos forêts d'asphalte, parce qu'un président, ça date. Mais un révolutionnaire, c'est fidèle. Demain les arbres n'auront plus de place, refleurissons notre boule de crasse, avant que tous les continents soient chauves et qu'on assassine le dernier fauve. Il faut que tous les points se soulèvent, c'est la planète de tous ensemble ou crève. Frères comme toi, ça nous en prendra 1000 si nous voulons danser sur l'an 2000. Mon ami fidèle, pour amener le peuple au ciel, sur les ondes d'une radio rebelle, il faut une samba éternelle. La gauche et la droite, Golda Meir embrasse. Sarafat. Dansons, dansons dans nos forêts d'asphalte, parce qu'un président s'adapte, mais un révolutionnaire, c'est fidèle.
Expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cualquier.